Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
État des lieux du processus électoral en RDC. Quel est l'état d'avancement des réformes électorales, des préparatifs de la mutualisation des opérations du recensement et identification de la population, ainsi que l'avancement des opérations électorales? Droit et citoyenneté se penchent aujourd'hui sur la problématique des élections pour savoir ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce qui reste à faire pour organiser les élections en 2023. Je suis Jeff Ngoyi Molonda. Bienvenue à tous. À travers un déjeuner d'affaires organisé par les commissions Justice et Paix de la CENCO et de l'ECC, les représentants de ces deux commissions ont présenté le contexte de l'atelier sur l'état des lieux du processus électoral. On les écoute.
Le contexte est si simple. La CENI nous a donné des informations et la suite de ces informations contenue dans sa feuille de route a permis à ce que les organisations de la société civile aient besoin d'avoir beaucoup plus de lumière sur l'évolution du processus électoral afin de permettre à la société civile de communiquer avec le reste de la population. Donc, le but, c'est d'abord obtenir un processus inclusif, un processus transparent, un processus électoral apaisé. C'est ça ce que les CCCNCO visent. Et pour se faire arriver à cela, il nous faut obtenir et recueillir le maximum d'informations, partant d'abord de la CENI, mais également de toutes les institutions qui concourent à l'organisation des élections, obtenir des informations crédibles et fiables pour que les CCCNCO et la société civile ne tâtonnent pas lorsque nous communiquons sur la question électorale.
Juste ajouter quelques éléments du contexte qui a fait que nous puissions organiser cette activité aujourd'hui. Au mois de février dernier, la CENI avait rendu public sa feuille de route. Et après cela, il y a eu beaucoup d'organisations de la société civile qui ont analysé la feuille de route et qui ont formulé des recommandations à l'endroit de la CENI, mais aussi de toutes les autres parties prenantes. Parce que comme vous le savez, la feuille de route de la CENI est assortie de contraintes. Les contraintes que l'ECC et la CENCO, dans leur communiqué, avaient appelées des incertitudes. Donc, des zones de doute qui ont été soulevées par la CENI. Et pour cela, comme toutes les autres organisations de la société civile, je l'ai dit, nous avons fait un communiqué avec des pistes de solutions. Mais on n'en est pas resté là. Nous sommes allés voir le président de l'Assemblée nationale pour échanger avec lui. Les échanges ont eu lieu autour des contraintes et nous avons eu quelques réponses, surtout des assurances que le processus concernant la production des lois essentielles pour l'organisation du processus électoral devait être accéléré, de sorte que la CENI puisse avoir tout ce qu'il faut et que les élections puissent avoir lieu dans les délais. On n'est pas resté là, vous avez suivi, nous avons été auprès du président de la CENI, lui aussi il nous a parlé, il nous a surtout apporté un éclairage concernant assez d'éléments contenus dans sa feuille de route et partant de ces éclairages, nous avons continué à travailler et nous voudrions rencontrer le Premier ministre. Son agenda n'a pas permis cette réunion jusqu'à ce jour, pour qu'on puisse cerner de plus en plus les vrais problèmes, pour qu'on mette en place une feuille de route à notre niveau de plaidoyer auprès des institutions, pour qu'on puisse avoir les élections dans les délais comme souhaité par la majorité des Congolais. Et après, on a constaté que parfois les informations, ce n'était pas les mêmes. Nous avons voulu avoir les intervenants, surtout ceux qui interviennent directement dans les processus électoraux, afin que chacun nous dise où est-ce qu'il en est avec les préparations, selon ses compétences, la préparation des scrutins attendus avant la fin de l'année prochaine.
Après ce diagnostic, suivons à présent la CENI par l'entremise de Gérard Bissambo, membre de la plénière qui explique l'état d'avancement du processus électoral.
Nous sommes ici devant un paradigme. Le paradigme, c'est la trilogie loi, finances et sécurité. Et l'objectif, c'est d'organiser les élections en 2023, tel que le dit la Constitution. Et donc, nous allons lire, nous allons jeter un regard de toutes les interventions de nos échanges en fonction de ces paradigmes, en fonction de cet objectif que nous sommes appelés à atteindre, évidemment, tout en visant aussi l'obligation et la nécessité d'avoir des élections de qualité, des élections crédibles, transparentes et inclusives. Alors, qu'est-ce que la CENI a fait et est en train de faire et pourra faire dans les tout prochains jours? 5 mois depuis que le nouveau bureau de la CENI a été installé, voici ce qui a été fait. D'abord, il était important de prendre possession de l'institution, l'administration électorale, voir qu'est-ce qui se faisait à ce moment-là et à partir de quel moment nous devions commencer le travail. Il fallait en fait remotiver l'administration électorale à ce moment-là, dont les agents couraient près de 10 mois d'arriéré salarial. Et donc, la nouvelle administration de la CENI, le nouveau leadership, a eu à travailler d'abord pour apurer ces arriérés. Ça a été fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, les agents, dont les salaires étaient amputés de quelques pourcentages, ont pu retrouver, en tout cas, la totalité, l'entièreté de leur salaire. Et ça, ça les met davantage au travail, un travail que nous voulons basé sur l'éthique électorale, parce que nous nous sommes donné comme vision le rebranding, donner une nouvelle image de la CENI, faire un effort pour que ce qu'on décriait à la CENI ne puisse plus l'être. Ça, c'est vraiment le leitmotiv et c'est même la base de notre action que nous considérons comme étant une base éthique. Et après, nous devions comprendre la philosophie même de l'organisation des élections, ce qui a fait que nous devions participer à l'imprégnation électorale. L'imprégnation, en fait, c'est là où on va s'immerger dans la philosophie de la maison. La philosophie, ici, il ne faut pas voir ça seulement sur le sens théorique, mais c'est aussi des pratiques électorales requises pour pouvoir tenir à la mission qui nous est assignée. Et de l'imprégnation, il faudra noter que nous avons eu à produire le budget, les élections pour donc le processus 2023. On a aussi élaboré le plan d'encaissement des élections. On a élaboré le plan logistique des élections. Et nous en sommes sortis aussi avec un programme de sensibilisation électorale qui, pour le moment, est presque finalisé et devra être lancé dans les jours qui suivent. Et après, il fallait revenir sur les textes de base. Et nous avons eu à actualiser le règlement intérieur qui a été jugé conforme à la Constitution depuis le 1er mars de l'année en cours. Et finalement, on s'est dit qu'il ne faut pas naviguer à vue. On organise des élections, mais il faut avoir ce que nous appelons la boussole, les orientations stratégiques et ce que l'on fait pour qu'on ne puisse pas organiser des élections de façon ponctuelle, mais que nous puissions les planifier dans un regard durable, dans la pérennité. C'est ce qui a fait que nous puissions mettre sur pied, élaborer donc le plan stratégique de la CENI qui a 5 axes. Les axes de notre action, focalisés sur la nouvelle vision, la nouvelle image de la CENI, focalisés sur l'inclusion électorale et diversité, ça c'est des questions de genre, personnes vivant avec handicap, peuple autochtone, ainsi de suite, focalisés sur l'amélioration des rapports avec les parties prenantes, mais aussi focaliser sur l'efficacité de l'action dans la mesure où il faut du professionnalisme pour avoir des élections de qualité. Et le 3 février, comme l'a évoqué, notre frère Cyril, nous avons eu à publier la feuille de route. Et la feuille de route partait déjà des différents jalons lancés au sein du plan stratégique lorsque nous avons aussi déjà fait l'imprégnation. On a eu des éléments, des données opérationnelles qui a permis que nous puissions mettre sur pied, nous puissions élaborer la feuille de route qui a été publiée le 3 février. Et de la feuille de route dépendra le calendrier, donc la mouture du calendrier, je vous assure déjà là. Mais nous avons pensé lancer la feuille de route parce qu'il fallait bien effectivement recueillir les avis des différentes parties prenantes, à prendre en compte de telle sorte que nous puissions avoir un calendrier qui n'est pas un calendrier de la CENI, mais un calendrier qui devra être porté par l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est ça. Et si vous lisez dans la feuille de route, vous parcourez, vous allez voir que chaque fois, il est prévu un cadre de concertation avec les différentes parties prenantes, de manière à ce que le regard, les avis de ces différentes parties prenantes sur l'affaire des routes soit émis et soit prise en compte dans, le calendrier, dans la finalisation du calendrier électoral qui sera publié incessamment. Parce qu'il faut redorer l'image de la CENI, il était important que la CENI voit aussi sa gouvernance. Avec tout ce qu'il y a eu lors des processus antérieurs en termes de gouvernance, nous nous sommes sentis qu'il y avait l'obligation de travailler un peu sur la redevabilité et sur la transparence dans la gestion de la CENI. C'est pourquoi nous avons créé la cellule de passation des marchés, et qui a une coordination chargée de quelques experts. Et on a aussi créé, cette cellule va aussi travailler sur les différents projets liés aux élections, mais on a aussi créé un comité d'audit interne, un comité de contrôle et audit interne, qui devra faire au premier niveau le contrôle de la gestion de la CENI, toute la gestion, et finalement, peut-être au second niveau, c'est en termes, c'est ce qui revient en fait à l'Assemblée nationale, avec la Cour des comptes, en vertu de l'article 52 de la loi organique. Alors, donc cette cellule existe, même la cellule de contrôle interne existe. Et nous sommes allés plus loin, on a lancé le cadre de concertation. Et les premiers cadres de concertation qui ont été lancés concernent beaucoup plus les acteurs non étatiques. Il y a le cadre de concertation avec les organisations de la société civile, le cadre de concertation genre et diversité électorale, le cadre de concertation avec les médias, les actifs, ça a déjà été lancé. Il y a eu même un cadre de concertation spécifique avec les personnes vivant avec handicap. Et nous avons eu un cadre de concertation avec les sociétés savantes. Donc on a réuni les scientifiques, les professeurs d'université avec qui on a réfléchi sur la feuille de route, mais en même temps sur l'opération de la cartographie qui est en cours de réalisation maintenant. Et en lien avec le cadre de concertation genre, diversité électorale, nous sommes en train de finaliser la politique genre et élection de la CENI, ce qui n'a jamais existé autant aussi que le plan stratégique. Et il faudra noter qu'on a finalement lancé la grande opération d'actualisation des cartographies électorales, opérationnelles électorales. Cette opération est une opération cruciale qui en fait fonde les autres opérations, notamment l'opération fichier électoral, la révision du fichier électoral, ou même les opérations de vote. Parce que vous ne pouvez pas avoir lancé la révision du fichier électoral si vous n'avez pas stabilisé la cartographie. Et vous ne pouvez pas aller vers l'appel à candidature, l'ajustement des candidats si vous n'avez pas encore stabilisé cette opération, enfin disons la cartographie des opérations. Nous avons lancé cela et les activités sont en cours. On a commencé par la formation de l'équipe du niveau zéro et puis des formateurs nationaux, des formateurs provinciaux sont en train d'être formés. Et vous avez certainement vu lancer l'appel à recrutement pour les préposer à la collecte des données de la cartographie des opérations. Ça, c'est la grande opération qui nous permettra de stabiliser les centres d'inscription au cas où on a un fichier, on devrait avoir la révision du fichier électoral, mais aussi de stabiliser les sites de vote. Vous savez que généralement, il y a trop de problèmes à ce niveau-là en termes de distance entre les électeurs et leur centre d'inscription, encore site de vote, en termes des conflits entre différents groupements, mais aussi parfois en termes de certains sites qui avaient été utilisés lors du cycle passé comme bureau de vote ou comme centre d'inscription qui n'existerait plus. Il faut les identifier et voir comment on peut les remplacer, voir quelle est leur viabilité, quelle est la distance par rapport aux électeurs, mais en même temps aussi en quoi ça peut répondre aux exigences pour des personnes vivant avec handicap. Vous trouverez par exemple qu'un centre d'inscription, encore un site de vote partagé par deux groupements qui sont en conflit. Alors il ne faut pas les laisser partager un tel site parce que finalement ils vont se battre même le jour des élections. Et il faut donc trouver une solution bien avant. Toutes ces questions-là ont été prises en compte déjà lors de la rencontre avec les scientifiques, mais beaucoup plus les experts y ont travaillé et ceux qui vont descendre sur le terrain vont travailler pour que nous puissions avoir une cartographie stabilisée, équilibrée, qui tienne compte de tous ces défis. Alors, comme je le disais, il y a un programme de sensibilisation qui est déjà en place et qui va être lancé d'ici là. Là, c'est pour que les différentes parties prenantes puissent s'impliquer davantage à sensibiliser la population, remobiliser la population et à s'approprier du processus de telle sorte que nous puissions avoir, comme nous le souhaitons, des élections inclusives, des élections apaisées, mais surtout des élections transparentes qui requiert de la participation de l'ensemble des Congolais. Alors, il faut noter que, en plus de cela, nous sommes en train d'exécuter le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le calendrier avait été publié le 23 février et nous avons ouvert les BTC, on a enregistré les candidats et la liste provisoire a été publiée et les contentieux ont déjà eu lieu et finalement nous avons déjà reçu les arrêts des différentes cours administratives et il reste à ce qu'on puisse terminer pour qu'une décision soit signée et que le président puisse publier les listes définitives et aller aux élections, à ces élections-là, le 6 mai, comme c'est prévu dans notre calendrier. Voilà, grosso modo, ce que je puis dire pour le moment par rapport à l'état des lieux, de ce que la CENI est déjà en train de faire et de ce qui va être fait.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15.
État des lieux du processus électoral en RDC. Suivons à présent le président du Sénat sur les réformes électorales. Modeste Barati donne des assurances sur le plan législatif, consécutivement aux contraintes juridiques contenues dans la feuille de route de la CENI.
Nous, la classe politique, nous qui devons être les éclaireurs, et à un moment donné, il faut que chacun de nous se remette en cause en se posant la question, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui arrive à notre pays? Quel est le rôle que j'ai joué et que puis-je faire pour que les choses changent positivement? Eh bien, mes chers compatriotes, je salue cette initiative qui a été prise par la CENCO et l'SCC et à laquelle prennent part les forces vives de la nation représentées ici. Je salue cette initiative parce que nous avons connu beaucoup de crises dans notre pays et je sais que il faut toujours commencer quelque part. La société civile a un grand rôle à jouer. Surtout lorsque les acteurs politiques semblent ne pas se mettre d'accord. C'est là que la société civile et en tête les églises doivent jouer leur rôle. Et je veux vous dire que le début a toujours été ainsi. Des hésitations, des doutes. Mais ce qui compte, c'est que l'on puisse croire en ce que l'on fait. Ce que nous sommes en train de faire ce matin pourra représenter ou même être le chemin ou le guide vers une solution durable à tout ce que nous vivons aujourd'hui, notamment avoir un pays gouverné selon les règles démocratiques, un pays où il fait beau vivre, un pays qui offre un bon cadre pour que les jeunes, les mamans et toutes les catégories puissent trouver une occupation et contribuer ainsi au redressement de la situation. Parce qu'on a beaucoup insisté sur la trilogie, la loi, le cadre juridique, les finances et la sécurité. Dans cette trilogie, en tant que parlementaire, en tant que président du Sénat, il est évident que ce qui me concerne en premier, bien que toutes les questions puissent me concerner, mais en premier, ce qui me concerne, c'est le cadre juridique, la loi. Et lorsque le camarade Cyril Botoko a posé le diagnostic, il a demandé que nous, parlementaires, nous puissions donner des assurances quant au rôle que nous devons jouer pour ne pas retarder le processus électoral. Je voudrais vous dire sincèrement que le Sénat, qui est la deuxième chambre et donc qui est concerné par les réformes qui vont être engagées, jouera sa partition. Et nous allons faire de notre mieux pour que lorsque les matières nous arrivent de la chambre seule, nous puissions les traiter rapidement mais en toute responsabilité aussi, parce que le Sénat, dans son rôle de seconde lecture, doit veiller sur la stabilité des institutions, sur la paix et les équilibres fondamentaux. Vous vous rappellerez de ce qui s'était passé en 2015, le Sénat avait eu un rôle important à jouer, et nous entendons le jouer encore une fois de plus. Ceci pour dire que nous saluons l'action et l'activité intense qu'engage la CENI en ce moment. Elle est en tout cas à pied d'œuvre pour qu'elle puisse s'acquitter valablement et correctement de sa mission. Notre seule demande, c'est que ce qui s'est produit dans le passé ne puisse pas se reproduire. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé. En 2006, il y a eu quelques plaintes. En 2011, il y a eu des plaintes. En 2018, il y a eu un tollé général. Tout le monde était surpris de constater qu'avant qu'on ait dépouillé les résultats au niveau des centres locaux de traitement des résultats, eh bien, Kinshasa était en train de proclamer les résultats. Ça ne nous honore pas. D'autant plus qu'on nous avait rassuré qu'en utilisant la machine à voter, il y aura concomitamment aussi les bulletins physiques qui permettront à ce qu'on puisse comparer ou rapprocher les données. Mais dans une sorte de film à la Zorro, alors que les gens étaient encore en train de s'adonner à la tâche, notamment à dépouiller, ils suivent à la télévision les résultats. Je pense que nous devons éviter cela. Et je voudrais dire ici que, chers frères et sœurs, personne n'est à l'abri. Je vous le dis bien, personne n'est à l'abri. Il y en a qui peuvent croire qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont une parcelle de pouvoir, ils sont à l'abri d'un tripatriage. Je vais vous assurer que personne n'est à l'abri. En tout cas, pas nous de l'AFDC, parce que nous en avons souffert. Et vous le savez très bien. C'est pour cette raison que ce que nous avons enduré, nous ne souhaiterions pas que ça vous arrive et que ça arrive à quelqu'un d'autre. D'où toute l'importance de cet atelier. Cet atelier doit nous rassurer. Cet atelier doit tracer la voie indiquée. C'est vrai qu'il y a des intérêts. Chacun tire la couverture de son côté. Mais justement, la société civile, elle doit être au milieu. C'est elle qui doit rassurer tout le monde. Elle dit toujours la vérité même quand elle blesse. Et je crois qu'avec cela, nous avons l'espoir que cet atelier va produire de très bons résultats. Je voudrais vous encourager et vous dire que vous avez tout notre soutien. Et qu'au Sénat, il n'y aura pas de retard en ce qui concerne la prise des lois, le débat démocratique sur les réformes électorales et d'autres lois qui concernent le processus.
Et qu'en est-il de la mutualisation des opérations? Un délégué de l'ONIP, Office national d'identification de la population, parle des missions dévolues à son institution. Nous nous excusons pour la qualité sonore.
L'ONIP, qui est l'Office national de l'identification de la population, revêt en elle, à lui seul, plusieurs missions. Parmi ces missions, nous allons simplement retenir aujourd'hui trois essentielles. En fait, l'ONIP s'occupe et s'occupera de l'identification systématique du Congolais, citoyen congolais, vivant au Congo et vivant à l'étranger. Ensuite, il va s'occuper de la constitution du fichier général de la population, ainsi la délivrance de la carte d'identité nationale. Quels sont les biens fondés de l'identification? En fait, c'est ça, c'est connaître simplement la population congolaise telle que nous sommes. Parce que depuis plusieurs années, nous ne nous connaissons pas, nous ne savons pas qui nous sommes. Et aussi, il faut qu'on différencie chaque Congolais. Il y a des gens, de temps en temps, qui confondent, je ne sais pas, à tort ou à raison, l'identification et l'enrôlement des électeurs. L'identification en l'un seul et prendra en compte de la différence entre les Congolais eux-mêmes, ce qui est l'enrôlement de l'électeur ou des électeurs qui nous sommes à aussi variable. C'est-à-dire, à un certain âge, on va parler de l'électeur. Mais l'identification va prendre en détail beaucoup d'autres variables. L'état civil. L'identification va tenir compte de l'état civil.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes, et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Droit
et citoyenneté.
Nous sommes toujours ensemble dans Droit et citoyenneté sur l'état des lieux du processus électoral. Nous recevons maintenant Monseigneur Donatien Cholet de la CENCO après tout ce qu'il a entendu sur ce processus.
Est-ce que vous êtes suffisamment éclairé sur l'avancement de ce processus et qu'on peut espérer aller aux élections dans les délais constitutionnels?
Bon, c'est très tôt de le dire. Nous sommes avec l'ECC, mon collègue Eric pourra intervenir à la fin. Mais en tout cas, la partie que j'ai suivie me paraît assez intéressante. Et les questions soulevées montrent l'intérêt des parties prenantes d'être rassurées de l'ensemble du processus. Donc nous espérons que ces échanges feront le lead d'une dynamique nationale qui va amener à un minimum de consensus qu'il faut pour des élections inclusives, crédibles et apaisées.
Concernant l'opération d'identification des Congolais, on croyait en savoir un peu plus. Où est-ce qu'on en est déjà avec l'identification des Congolais? Est-ce qu'on est toujours dans le timing?
Bon, je crois que ça c'est la question à poser à ceux qui sont chargés de le faire. Donc il y a un flou qu'il faut clarifier.
Après le secrétaire général de la CENCO, nous allons conclure avec le porte-parole de l'ECC, Eric Senga.
Disons que l'objectif principal de cette activité est d'échanger les informations importantes. Vous savez que nous sommes dans un contexte à la fois flou dans le sens que chacun a sa compréhension des choses, tant au niveau institutionnel qu'au niveau de la population représentée par la société civile. L'intérêt pour nous, comme nous l'avions dit à plusieurs reprises, les CC et la CENCO tiennent à ce que ce processus soit inclusif, apaisé et crédible. Et dans cette démarche, il a été question pour nous d'approcher les principaux organisateurs du processus électoral. Nous attendons ici les institutions étatiques ainsi que la CENI pour recueillir d'eux un certain nombre d'informations qui pourraient nous aider à avoir le même narratif en termes de communication, mais aussi dans la stratégie du plaidoyer et aussi c'est celle de monitoring. Donc le monitoring que nous menons nécessite à ce que nous ayons un certain nombre d'informations. Donc voilà pourquoi nous avons organisé cet atelier et il faut avouer que beaucoup d'informations qui sont données ici et même les préoccupations soulevées par certains techniciens experts nous aident justement à clarifier l'orientation du suivi en termes de monitoring mais aussi en termes de plaidoyer.
Et la prochaine étape, qu'est-ce que vous comptez faire?
Ça c'est une activité on va dire beaucoup plus technique. C'est comme ça que vous avez vu, il y a une catégorie d'invités, donc la société civile. On a voulu aussi montrer que les CC et la CENCO ne sont pas fermées. Elles sont ouvertes au travail de la société civile qui sont des partenaires naturels. Mais en même temps, il y a une autre activité à caractère beaucoup plus politique. Je crois que mon collègue, Monseigneur Cholet et moi sommes en train de faire la ronde pour obtenir aussi les consensus politiques. Parce qu'en notre sens, il y a deux niveaux. Il y a le niveau technique et opérationnel et un niveau politique éminemment diplomatique. Également pour voir dans quelle mesure on peut assurer l'équilibre dans l'organisation du processus électoral.
Qu'adviendrait-il s'il y a glissement? Puisque tous les paramètres tels que présentés aujourd'hui, la crise en Ukraine, la crise due à la Covid-19, avec la surenchère des prix sur le marché international, la dimension même électorale, est-ce que c'est permis qu'on aille vers le glissement?
C'est ce qu'il faudrait éviter. Pour éviter le glissement, nous pensons, ECC5O, qu'il va falloir l'engagement de tout le monde. En évitant justement la stigmatisation, les accusations parfois infondées, mais plutôt voir dans quelle mesure renforcer notre cerveau collectif. Une seule façon intelligible d'éviter les glissements, je pense que c'est que nous nous mettions tous ensemble, mais pour y parvenir, nous devons avoir des informations fiables, pas contradictoires. La difficulté, c'est quand on nous donne des informations qui ne corroborent pas la réalité, et c'est ce qui complique les choses. Et même dans l'hypothèse du glissement, c'est qu'il faudrait prendre de l'avance. Il ne faut pas attendre, mettre les gens devant un fait accompli. Avec l'environnement politique actuel, nous pensons que ça risque d'être ingérable. Voilà pourquoi les églises, dans leur mission pastorale, prophétique et spirituelle, ont déjà pris les bâtons de pèlerin. Nous offrons les cadres d'échange public, comme il en est le cas, pour essayer d'interagir. Et s'il y a des choses qui nécessitent inévitablement un engagement collectif, c'est maintenant qu'il faille le faire et non attendre le fait accompli.
état des lieux du processus électoral en RDC. Nous venons d'en parler à travers votre magazine de promotion de vos droits et devoirs. Droits et citoyenneté est à présent terminé. Merci de votre écoute sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et citoyenneté.
Droits
et citoyenneté.